À l'occasion des 220 ans des collections du CNAP, l'exposition Collector au Tripostal de Lille constitue une exposition pluridisciplinaire. Elle rend hommage à l'État qui, depuis plus de deux siècles, est le principal collectionneur de son époque, constituant peu à peu notre patrimoine commun. Caroline David, bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, eh bien, c'est le vernissage d'une exposition qui va durer 3 mois et qui a invité le CNAP.
Oui, le CNAP, un nom un peu bizarre, hein, Centre National des Arts Plastiques. Mais derrière ce nom se cache eh bien, une très grande collection de l'État qui, depuis 220 ans, achète des œuvres d'art contemporain au moment, par exemple, au 19e siècle, à la fin du 19e, eh bien, l'État a acheté, alors qu'il n'était absolument pas connu, une œuvre de Matisse, une œuvre de Jeunesse. Et dans cette exposition qui est bien sûr sur l'art contemporain, plutôt les 30 dernières années de l'art contemporain, il y a ces deux œuvres, une de Ingres et une de Matisse, pour montrer aussi que l'État est toujours un peu avant-garde quand il achète l'art d'aujourd'hui.
Donc l'État, le CNAP et dans les régions, les FRAC, il y a une grosse différence ?
Alors oui, il y a une différence puisque l'État, disons, Fonds National d'Art Contemporain, c'était un petit peu le nom avant du CNAP, et Fonds Régionaux d'Art Contemporain, au niveau national, eh bien, l'État est souverain, entre guillemets, pour acheter, alors que dans les régions, eh bien, c'est une entité, le FRAC, à deux têtes, l'État et la région. Et donc ce sont des fonds qui vont se constituer non pas avec le désir d'une seule personne, comme un collectionneur, mais les propositions de comités, de plusieurs personnes, aussi bien dans les FRAC que aussi bien le CNAP.
Est-ce qu'il y a des vraies différences dans les choix, des points de vue artistiques dans les acquisitions qui sont vraiment de nature différente pour offrir, j'allais dire, une diversité, parce qu'on sait que l'influence de certaines galeries, est-ce qu'on ne les retrouve pas aussi dans les régions ?
Alors, ça l'était peut-être un peu dans les FRAC première génération, où il y avait en effet peut-être, disons, certains artistes qui étaient peut-être achetés en même temps et de façon aussi importante dans des FRAC et par le FNAC à l'époque, le CNAP maintenant. Ça a beaucoup évolué parce que chaque FRAC, on le sait maintenant, s'est forgé une spécificité. Et par exemple, le FRAC Nord-Pas-de-Calais s'est ouvert beaucoup sur l'Europe du Nord-Ouest, alors qu'il était, je dirais, plus international d'une façon générale avant. Des FRAC se sont même identifiés beaucoup plus à l'architecture et l'art contemporain. Ce qui fait qu'elles sont les collections de FRAC maintenant sont beaucoup plus en complément d'une collection nationale que, en rivalité ou concurrence.
Donc ici, on est au Tripostal, c'est Lille 3000, donc la ville de Lille qui, comme chaque année, organise une ou plusieurs grandes expositions qui va durer 3 mois, hein, celle-là encore. À chaque fois, pour vous, c'est aussi l'occasion de remettre le spectateur, le visiteur dans une autre ambiance, voir d'autres choses, ouvrir son esprit à l'art contemporain.
Tout à fait. Et les expositions se suivent et ne se ressemblent pas. Hein. Chaque exposition, je dirais, est une exploration dans des domaines différents. Bien sûr, c'est toujours l'art contemporain. Ici, on est plutôt dans une exposition, je dirais, un vrai parcours qui va être très utile pour les enseignants, pour des élèves, pour des enfants, pour des familles qui ont envie de découvrir, d'avoir un paysage presque de l'art contemporain. On a 30 à 40 années d'art contemporain ici, et avec des domaines extrêmement divers qui abordent le pop art, qui a la figuration narrative, même de l'expressionnisme au niveau de la peinture, et qui permettent surtout des rebonds pour avoir une vraie lecture de cette histoire de l'art contemporain. Et ça, c'est très différent peut-être de l'exposition La Route de la Soie, où on était sur 3 territoires, donc très belle exploration aussi, ou la collection de François Pinault, ou qui était beaucoup plus axée, alors là aussi très historique, hein, sur la vidéo et la photo. Donc à chaque fois, je dirais que pour les gens qui ont eu la chance de voir les expositions les unes à la suite des autres, et peut-être même d'autres faites dans le cadre de Lille 2004, eh bien, je dirais que la formation, elle est extrêmement large.
Merci Caroline David pour cette exposition qu'on va donc découvrir pendant toute cette période. À bientôt.
À bientôt.
Bonjour, donc je m'appelle Virginie Pinto, donc je suis médiatrice pour l'exposition du Tripostal Collector. Donc c'est ma première fois en tant que médiatrice pour une exposition de ce type. Donc l'idée c'est que j'ai plus l'habitude de travailler avec les enfants. Donc l'idée c'est d'adapter en fait des œuvres qui ne leur sont pas particulièrement accessibles, oui, voilà, et de leur apporter des choses en fait qui réfléchissent sur le monde qui les entoure, sur cette société de consommation, sur la guerre. Par rapport à l'œuvre de Mounir Fatmi, par exemple, qui évoque par les barres de jumping l'idée de chute et à la fois d'élan, en fait, par rapport à ce drapeau américain. Donc c'est vraiment au spectateur, même à l'enfant, en fait, de se faire une idée de ce pays. On ne se lance pas tout de suite à leur expliquer l'œuvre. On leur pose d'abord énormément de questions et c'est eux en fait qui forment leur propre critique. On parle également donc des formes, des couleurs. Donc c'est vraiment à eux de se créer leur propre exposition.
Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre des enfants qui viennent et un public qui n'est pas forcément initié, qui vient pour la première fois dans ce type de lieu ?
Disons qu'on s'adapte en fait en fonction des personnes que nous avons en face de nous. Nous ne sommes pas forcément au courant des gens qui arrivent, donc on les voit, on voit comment ils s'expriment face aux œuvres. En fonction de leurs questions, on rentre plus dans le sujet, en profondeur.
Donc il y a plusieurs niveaux, plusieurs salles. Est-ce que chaque espace suppose, j'allais dire, un médiateur spécialisé ?
Non, nous sommes en phase avec toutes les œuvres en fait de cette exposition. Donc le premier niveau, ce sont les grands transparents en fait. Par rapport aux enfants, on parle des grands-parents en fait. L'artiste face à celui qui l'a aidé à créer, à celui qui l'a aidé à être, donc comme tous nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc c'est vraiment le côté familial, tout comme Luigi Calamatta qui avait comme pour maître Jean-Auguste Dominique Ingres. Et donc au 19e siècle, en fait, les artistes poussaient, enfin les maîtres poussaient leurs élèves à en fait copier en fait pour apprendre beaucoup plus facilement la peinture. Et Luigi Calamatta, c'est la technique de gravure qui est vraiment précise. Étant moi-même graveuse en fait, ayant fait un DNSEP en travaillant essentiellement la gravure, je peux apporter des choses en tant que médiatrice pour leur faire comprendre en fait la technique, pousser un peu plus l'œuvre, qu'ils la comprennent profondément.
Voilà, donc vous êtes ici dans le cadre d'une exposition, j'allais dire, et après ?
Et après, c'est une bonne question. Je viens de finir donc mes études DNSEP, Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique. Donc l'idée, c'est de travailler en médiation et pourquoi pas monter, mais toujours dans le milieu de la culture. Donc je vis au jour le jour, je profite de l'instant présent, carpe diem, et nous verrons bien. Enfin.
Bonne chance, Virginie.
Merci beaucoup, monsieur.
Emilia Filippo.
Donc vous êtes co-organisatrice de cette exposition, co-commissaire.
Voilà, je suis co-commissaire puisque cette exposition a été réalisée intégralement par le CNAP, donc Sébastien Faucon qui est responsable des collections arts plastiques, Claire Bernardi que vous avez aperçue, responsable des collections arts graphiques, Pascal Cassagno qui est responsable des collections vidéo nouveaux médias et Pascal Beauce, responsable des collections photos. Donc c'est un commissariat à tous les responsables de collections. On s'est mis ensemble et on a réfléchi sur une grande exposition qui présenterait la collection du Centre National des Arts Plastiques, qui est la plus grande collection d'art contemporain en France, et qui a été pensée d'emblée comme une exposition pluridisciplinaire qui montre toute la variété de notre collection, à la fois en termes de secteur, mais aussi de historique, puisque vous avez vu qu'au rez-de-chaussée, vous avez quelques pièces du 19e, dont le moulage de la Vénus de Milo qui ouvre l'exposition.
Donc ici, on est à Lille, au Tripostal. Est-ce que pour vous, ça vous inspire des choix particuliers ?
Alors, au Tripostal, oui, puisque on a une chance énorme, c'est que c'est un bâtiment immense qui fait presque 6000 m2. Donc, on a pensé d'emblée l'exposition en termes de plateaux, de trois plateaux. Donc, les grands transparents autour des artistes et leurs pairs, le regard des artistes face à l'art de leurs prédécesseurs. Le deuxième plateau où nous sommes ici, les artistes face au monde, donc le monde de la société de consommation, des médias, des signes, et ensuite le monde historique, on va dire, puisque vous avez deux autres salles consacrées à l'histoire, l'engagement politique des artistes et la manière dont parfois ils sont aussi en retrait et ils créent des symboles pour s'engager, mais pas dans un rapport d'illustration ou en tout cas dans un refus de l'image médiatique. Je vous dirais aussi un mot des titres des plateaux qui sont empruntés aux titres des œuvres à chaque fois. Le premier plateau, Les Grands Transparents, qui est une œuvre de Man Ray. Ici, nous sommes sur Dommages Collatéraux, qui est une œuvre de Gianni Motti, qui est dans la salle d'après. Et la salle du dessus, Life is a Killer, qui est le titre d'une pièce de John Giorno, qui ouvre aussi le troisième plateau. Et donc là, c'est l'artiste face à lui-même, face au temps et plus face à la finitude. C'est vraiment un niveau sur la vanité contemporaine et comment les artistes réinvestissent la vanité contemporaine. Donc là, on est sur un second plateau qui est plus autour des artistes face à la société, à la médiatisation des images, aux signes. Donc là, on est arrivé dans cette salle avec le papier peint de Klosky et Warhol. Et là, on a tout un ensemble de pièces qui sont des réactions des artistes face à la société et la manière dont ils réempruntent et dont ils se réapproprient en fait les signes du monde contemporain pour soit le critiquer, soit en tout cas s'engager, politiquement c'est un grand mot, mais en tout cas s'engager dans le monde qui est le leur. Raymond Petitbon, un ensemble de dessins, donc très inspiré des comics, de la bande dessinée, des journaux. Là vous avez une pièce majeure de l'exposition qui fait l'affiche, Mauricio Cattelan, donc l'autruche qui met la tête sous le sable. Une commande qui avait été faite à l'artiste d'intervenir dans une foire et il ne souhaitait pas produire de pièces pour cette foire, mais du coup il a quand même produit une pièce qui est celle de l'abnégation et du refus, puisque c'est une autruche effectivement qui se met la tête dans le sable. Une pièce majeure là-bas aussi de Mounir Fatmi qui a été acquise à la dernière FIAC et qui s'appelle donc I Like America. Donc ce sont des haies de parcours d'obstacles de chevaux qui sont complètement déconstruites et malgré cette déconstruction on lit en fait une déconstruction du drapeau américain, et dans le titre vous avez aussi une référence à ça puisque c'est hommage à Derrida, donc le philosophe de la déconstruction.
Le CNAC, donc, c'est une structure qui a beaucoup d'œuvres. Alors, est-ce qu'elles sont à disposition et à disposition de qui ?
Alors, le CNAP, c'est 90 000 œuvres, la collection du CNAP, donc c'est énorme. Il y a déjà beaucoup d'œuvres qui sont en dépôt, puisque la mission historique du CNAP était de déposer dans les mairies, les écoles, les hôpitaux, les universités. Donc ça, au 19e siècle, on a beaucoup déposé. Et il y a une partie, je dirais, peut-être 20-25 000 œuvres qui ne sont pas dans nos réserves, gérées directement. Mais il y a une mission, en revanche, au sein du CNAP, qui est la mission de récollement, qui est chargée de vérifier que les œuvres se trouvent toujours chez leurs dépositaires, mairies ou hôpital, qu'elles sont en bon état et si ce n'est pas le cas, soit de les rapatrier, soit de commander des restaurations aux frais de l'emprunteur. Le reste de la collection est dans nos réserves au site de la Défense et en réserve externe, prêtée pour des prêts comme n'importe quelle autre collection. Et encore une autre partie de la collection qui est en dépôt dans des musées partenaires, Musée national d'art moderne, Musée des arts décoratifs, on fait aussi des dépôts au FRAC, un peu partout sur le territoire français. Voilà.
Donc les collectivités peuvent s'adresser à vous si elles veulent organiser une exposition ou avoir une œuvre pendant un certain temps à présenter au public.
Oui, bien sûr, on est là pour ça aussi. On continue à faire des prêts et des dépôts et on a un comité qui se réunit tous les mois avec tous les chargés de collection et notre équipe du mouvement des prêts qui a à la fois des installateurs, régisseurs et des chargés du suivi des restaurations, puisqu'à chaque fois qu'une œuvre bouge, on est obligé de faire ce qu'on appelle un constat d'état, de vérifier son état et éventuellement du coup d'intervenir s'il y a un problème et de la conditionner, de l'envoyer au prêteur.
Cécile Paris, bonjour.
Bonjour.
Donc ici on est dans un lieu un petit peu hors du temps, enfin du temps, on est dans la nuit carrément.
En tout cas là maintenant on est dans la nuit, mais dans une heure on sera dans l'extase.
Donc un lieu très dynamique avec un projet artistique un peu complexe qui s'appelle
Code de nuit.
Donc code de nuit, c'est vrai que la nuit a ses codes, enfin, on n'est pas forcément comme dans le jour. Vous, vous jouez avec les deux, jour-nuit, avec des ambiances dans plusieurs salles. Le projet de départ par rapport à votre projet global, code de nuit
Code de nuit, c'est une boîte de nuit qui s'expose. Code de nuit, c'est un atelier, un laboratoire qui réunit un certain nombre de chercheurs, d'artistes, qui ont travaillé différents codes de la boîte de nuit et de la nuit. Donc on a l'impression d'être dans une boîte de nuit, ou peut-être dans un atelier, ou sur un plateau de tournage. On ne sait pas tellement où on est. En tout cas, on est dans un espace vivant, puisque des artistes y travaillent, et qui effectivement peut donner l'impression qu'on a déjà vu ça quelque part et que c'est peut-être une boîte de nuit. Mais quand même, on est dans une exposition. J'ai été invitée par le CNAP pour ça. Le CNAP a... Donc, moi, je sais, Code de nuit n'est pas une œuvre de la collection. J'ai bénéficié de ce qu'ils appellent une commande publique. Et j'avais travaillé pendant un an autour de cette idée. J'ai fait une recherche. La recherche les intéressait. Et ils se sont dit que, vu l'espace qu'il y a à Lille et dans ce tripostal, il y avait cet espace. C'était l'occasion éventuellement d'activer une des formes donc de cette recherche. Et donc ils m'ont donné cet espace.
Une forme qui peut faire écho aussi parfois avec un certain public qui vient en tripostal pour d'autres types de manifestations.
Oui, alors en plus, voilà, ce qui est bien, c'est que ce qui était plutôt bien vu et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on est dans un espace qui déjà croise plein de choses. Aussi, on est à Lille, il y a beaucoup de boîtes de nuit par ici, dans les environs. On est dans une région qui a plutôt à voir avec... Enfin, il y a des vraies traditions de danse, de fêtes, de groupes de musique, etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien de s'inscrire ici. Ouais, et d'ailleurs, j'espère que dans les 3 mois, on va rencontrer plein de gens qui sont dans des activités proches, finalement.
Donc là, vous êtes au dernier niveau de l'exposition ?
Ouais. On est dans la dernière salle, on est tout au bout. Deuxième étage, on est caché, mais... Je pense que le visiteur qui reviendra ou qui viendra devrait rester ici, enfin, j'espère.
Voilà donc le lieu dynamique de l'exposition, c'est au deuxième étage. Est-ce que ce projet lillois, vous l'avez déjà décliné dans d'autres espaces, dans d'autres villes ?
Quand je vous parlais de la recherche que j'ai faite, j'ai eu l'occasion de la développer un peu au 104, il m'avait donné un espace de travail. Après, c'est la première fois que je la montre, vraiment. Et je parlais tout à l'heure d'une émission de radio. J'ai fait une émission de radio qui passe le 6 octobre là, sur France Culture, à 23h. En fait, Code de nuit peut prendre des formes très différentes. Là, je crois que c'est la forme la plus... Enfin, disons, dans l'idée de l'exposition, là, on est dans une très grosse expo qui dure 3 mois. Mais demain, Code de nuit pourrait durer une après-midi dans un magasin de disques. C'est possible. J'ai pas de...
Donc ce lieu est dynamique par son ambiance, par sa scénographie, par les personnes qui y sont. Et ouais. Puis aussi, vous avez des personnes invitées qui vont amener leur talent aussi. Ouais. Donc comment vous les avez sélectionnées ? Comment vous faites vos invitations ?
Je parle de recherche volontairement quand je dis qu'on a cherché autour de la boîte de nuit. Après, quand j'ai commencé à me demander qui pouvait s'intéresser à ça, c'est devenu énorme la liste. Alors j'ai... Évidemment, dans des amis artistes ou musiciens ou chorégraphes, il y en avait déjà plein. Après, j'ai pas pris que des amis, j'ai plutôt pris des notes à chaque fois qui me semblait que d'une pratique ou d'une réflexion de quelqu'un, ça pouvait être intéressant de l'emmener. Par exemple, Edith Commissaire qui prépare les cocktails, Edith, elle est architecte paysagiste. Et à un moment, ça m'intéressait d'inviter un paysagiste dans une boîte de nuit. Voilà, comment un jardin peut vivre la nuit, enfin, ce genre de... Donc j'ai fabriqué ça comme ça, mais je dis que c'est une communauté. Donc demain, je rencontre quelqu'un qui me raconte une histoire pas possible de son activité ayant à voir avec la boîte de nuit, je lui proposerai de venir. C'est une communauté, elle est changeante.
Elle est changeante, donc est-ce qu'il y a un programme qui est défini ou est-ce que du jour au lendemain ça change? Et est-ce que vous êtes toujours ici aussi?
Ouais, je vais être beaucoup ici puisque c'est mon atelier en fait. Vraiment, là moi à partir d'aujourd'hui j'ai un grand atelier. J'ai défini un programme, oui. Il ne sera pas communiqué parce qu'il n'est pas question qu'on soit dans un espace où les gens viennent à 2 heures pour voir je ne sais pas qui. Mais j'ai été obligée d'en faire un pour que tout le monde ne vienne pas en même temps. On ne peut pas inviter 3 groupes de musique au même moment, pour des questions techniques, on va dire. Mais ça va se répartir de manière plutôt harmonieuse dans les 3 mois, oui. Il y a beaucoup de visites.
Mais le spectateur n'est pas au courant
non,
au départ.
Non, il n'est pas au courant. Voilà, c'est ça, ouais. Il ne sait pas, bah non. Donc un jour, il peut arriver et il y a un chorégraphe qui travaille avec 25 dames qui font plutôt de la danse, de la valse ou du tango, et il va travailler avec elles sur des mouvements de danse plus contemporaines. Donc imaginez, l'espace sera très différent. Comme le lendemain, un poète qui invite les gens à écrire leur nom de boîte de nuit, d'ailleurs je vais vous inviter à le faire sur le cahier là, vient juste écrire et lire, ça donne pas du tout la même ambiance, la même chose à voir, mais c'est pas un spectacle, une fois de plus.
Bon, à découvrir donc,
oui.
De toute façon.
Ouais.
Et peut-être en venant plusieurs fois, vu que ça va changer.
Je crois qu'il faut venir plusieurs fois, il me semble.
Merci Cécile Paris.
De rien.
Voilà, donc ici on est dans l'espace discothèque avec les DJ. Alors il y a mademoiselle
Punky Bee
et monsieur
Fabrice Galice.
Donc durant 3 mois au Tripostal, cet espace sera animé de manière diverse, mais notamment sonore. Le son, ça va être très important, on va dire, c'est le cœur de la nuit quand même.
Bah oui, principalement le rythme en l'occurrence. Et Fabrice s'occupe de la lumière et aussi donc du rythme de la lumière et du rythme de la nuit qui évidemment vont bien ensemble.
Cette programmation, elle va être un peu particulière parce qu'elle va évoluer selon les heures et selon un programme.
Oui, bah, ça dépend. Après là, je sais pas à quelle heure on est. Je sais pas exactement où on en est. Moi normalement, je vais m'occuper du thème extase. Là, je crois qu'on est en nuit là. Mais
on est en nuit.
C'est comme en discothèque. On sait plus où on en est. On sait plus quelle heure il est.
Donc on perd un peu l'idée. Donc l'idée, c'est un peu pour que je reprends. Donc l'idée, c'est que le visiteur, on va dire, sinon le client ou le spectateur, à vous de définir, perde un peu la notion de temps et puisse très vite, d'une heure à l'autre, changer d'atmosphère, donc de conception et de sensation.
Et d'état d'esprit aussi, je pense. Bah, après, ça dépend aussi, et ça peut être avec, par exemple, les cocktails, les choses comme ça qu'on a aussi par Edit, et les choses comme ça. Ça peut aussi changer son état d'esprit, peut-être à cause de l'alcool ou grâce. Ça, c'est pas moi de le dire. Et puis, je sais pas, t'as pas un truc à...
Non, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'inventer un temps parallèle dans lequel le spectateur rentre et qui correspond pas au temps de l'extérieur, ce qui est déjà le principe de la boîte de nuit, sauf qu'ici, on va travailler sur des temps qui vont en plus se déranger les uns les autres, se mélanger et s'accélérer, se ralentir et inventer comme ça une espèce de monde qui est propre à Côte de Nuit.
Vous allez tenir 3 mois comme ça ?
Ben, là, il y a des machines qui travaillent pour nous aussi. On a créé une sorte de partition, un programme qui prend le relais en fait quand personne est derrière les platines et derrière la lumière. Le programme prend le relais et lui décide, il prend des décisions en fait sur les types d'énergie qui vont avoir lieu ou qui vont se présenter dans Côte de Nuit.
Voilà, merci. Alors j'allais dire bonne nuit, mais bientôt ce sera le jour.
Bonne nuit à vous.
Bonjour.
Merci. Donc dans cet espace, on va dire musical, pas forcément très bruyant, mais bon, il y a quand même une ambiance sonore, un niveau sonore. Dans une des petites salles, on a quelque chose d'un peu étonnant qui est présenté. Alors on voit des plantes, visiblement beaucoup de plantes plutôt aromatiques, et puis des flacons, et puis quelqu'un qui est en train de remplir ces flacons. Alors, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes
Edith Commissaire. En fait, moi, je travaille sur l'idée du jardin. Et donc, ce que je suis en train de mettre en place en ce moment, c'est le fait qu'une boîte de nuit peut aussi être organisée ou installée ou se réaliser au sein de la nature et d'un jardin qui, de préférence, serait un jardin urbain. Et donc, pour exprimer cette idée, en fait, j'ai installé cette table qui est comme un objet de programme. Et pour qu'on puisse vraiment avoir accès au programme, en fait, je fabrique des cocktails qui sont des idées de ce jardin. C'est-à-dire que pour moi, le projet Côte de Nuit, c'est donc un projet urbain, un projet lié à l'amélioration de l'espace urbain et de la nature urbaine en fonction de la vie nocturne. Et pour exprimer ce travail que je mets en place avec Cécile Paris, je fabrique des cocktails et on boit le jardin, on boit la nature et on peut devenir arbre ou herbe. Et en même temps, je travaille aussi toujours sur des espèces de limites, la limite de, voilà, du végétal et du construit. Et là aussi, je travaille avec tous ces objets très différents parce que je suis aussi un peu la limite, on va dire, de la thérapie, de alcool et thérapie, et alcool et se soigner tout en buvant de l'alcool, voilà. Donc en même temps, ces cocktails, ils sont faits à partir d'absinthe, hein, qui est vraiment quelque chose qui est chargé déjà en plantes médicinales. Et j'y rajoute des essences qui peuvent calmer ou rendre très euphorique, hein, ou alors qui peuvent en même temps diminuer la sudation quand vous allez danser. Voilà, en même temps, je joue un peu sur toutes ces choses-là. C'est un jardin qu'on cultive le jour et qu'on déguste et qu'on consomme la nuit. Voilà, c'est un peu toute cette histoire que j'essaye de mettre en place. Donc voilà, après, c'est sur les outils que j'utilise. Donc c'est vrai que, par exemple, on n'est pas obligé de boire avec moi. On peut, par exemple, aussi simplement sentir l'alcool. En même temps, je travaille sur toutes les... ça aussi. C'est vrai qu'on n'est pas... on peut simplement respirer quelque chose ou le goûter. Voilà, sur une espèce de pastille. Et en même temps, tous ces objets, voilà, j'utilise des lames de rasoir, des seringues, des pastilles blanches qui peuvent faire penser à des choses illicites. Mais en même temps, voilà, c'est sur toutes ces bordures, hein, et la porosité entre toutes ces bordures, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui.
Donc vous êtes une compositrice de cocktails ou de boissons. Comment vous envisagez votre rapport avec le public, j'allais dire le client ?
Alors moi ici j'ai installé deux espaces en accord avec Cécile. J'ai fait un grand bar, hein, où je vais servir 12 et 12, 24 cocktails en même temps, au même instant. C'est-à-dire que vers 17h30 ou 18h, je vais préparer les verres qui sont installés sur le bar que vous avez vu ici. Et un temps T, l'eau arrivera et remplira tous les verres en même temps. Et là, j'ai utilisé du matériel de jardinage. Donc, je remplis tous les verres avec un système d'arrosage. Donc, là aussi, je me situe dans cette frange entre l'intérieur, l'extérieur et la nature, la boisson, tout ça. Donc là, de ce côté-là, je prépare des choses. J'aurai une ligne de cocktail plutôt calmant et une ligne de cocktail plutôt euphorisant, voire aphrodisiaque. Donc je préviendrai les gens, ici c'est plutôt pour vous calmer et là c'est pour avoir vraiment une forme d'enfer. Et là sur cette table, je vais composer quelques cocktails. J'ai pas le temps d'en faire énormément parce que je passe du temps, je discute avec les personnes. Et là je compose en fonction des besoins ou des goûts de chaque personne. Et je peux effectivement là prendre le temps de leur faire respirer avant l'alcool, leur faire respirer les essences, leur faire goûter si elles veulent là sur cette pastille blanche. Et après, ce que j'essaye aussi, c'est de compléter avec quelques petites choses à manger, très, très minimalistes et légères, mais qui sont des compléments avec des herbes aromatiques mélangées avec du tofu ou un fromage, enfin quelque chose, voilà, qui accompagne et qui complète le cocktail. Donc c'est un espèce de, comment dire, je ne vais pas dire un service, mais voilà, c'est, en même temps c'est une conversation avec une personne.
Cette conversation, elle sera permanente sur les 3 mois ou il y a des points de rendez-vous bien précis ?
Il y a aujourd'hui et théoriquement, la prochaine fois, ça sera le 11 novembre, c'est un vendredi. C'est-à-dire que, et après, ça sera, on va dire, plus décousu, quoi, ça va être. Parce que, en fait, je pense que Cécile a eu vraiment raison de faire ça. Il n'y a pas un programme très précis. C'est-à-dire qu'il y a une certaine, là aussi, une certaine spontanéité qui est offerte à tout le monde. Mais c'est vrai que moi, ça me demande pas mal de temps à mettre en place. Il y a de plus en plus d'objets, il y a de la préparation, voilà. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que toutes mes essences maintenant de plus en plus... Tiens, il faut que je la remplisse celle-ci. Il faut que je vaporise les choses. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a des objets qui apparaissent et il y en a d'autres qui disparaissent dans cette chose que j'ai mise en place. C'est-à-dire que théoriquement, les bouteilles devraient disparaître parce que tout l'alcool que j'utilise et les essences que j'utilise sont vaporisées. Et là aussi, c'est pour reprendre tout le vocabulaire du jardinage et de l'arrosage et de la vapeur et même de l'atmosphère et de la météorologie. Enfin, tout commence à se situer dans une espèce de nuage. Voilà, c'est très... On est tous dans les nuages maintenant, mais les informations dans les nuages, les cocktails deviennent des nuages. Et je pense que je tends, j'ai commencé à fabriquer des choses aussi qui ne sont pas ici, parce que là, je n'ai pas trop le temps de tout faire, hein, mais que j'ai déjà expérimenté, où il n'y a plus de verre non plus. C'est-à-dire que tout est atmosphérique. Voilà, et on consomme de façon atmosphérique des cocktails.
Bien, merci pour toutes ces belles idées à découvrir donc parfois au Tripostal.
Voilà. Merci.
Donc, je suis Emmanuelle Ringeval, je suis médiatrice culturelle ici pour l'île 3000, en fait, au Tripostal pour l'exposition Collector.
Donc ici, on est devant une œuvre, on va dire, monumentale, chinoise.
Tout à fait. L'artiste s'appelle Wang Du, il est d'origine chinoise. Il y a vécu et a exercé donc en tant qu'artiste pendant de longues années, dans une perspective plutôt clandestine. Donc il agissait sous forme de performance. On ne trace pas son œuvre, il n'y a pas de photographie, il n'y a plus de documents qui permettent de retracer les premières années de sa carrière. Donc il est venu ici ensuite s'installer en France. Il a dû recommencer sa carrière de zéro. Et ici, il nous présente une première œuvre, donc le défilé. Sur des proportions vraiment monumentales.
Le thème ?
Donc ici, il exploite vraiment les images de propagande issues de la presse chinoise et extirpe en fait des motifs. Donc on voit des canons, des soldats, tous armés, un hélicoptère, etc. Et en fait, il garde toutes les distorsions qu'opère la photographie sur le réel. Donc on a vraiment une espèce de mise en trois dimensions de cette image photographique et on voit vraiment toutes les modifications qui opèrent. En fait, on voit un point ici levé avec la fronde vraiment surdimensionné, etc. Et Wang Du en fait nous montre justement les images de presse, comment elles sont véhiculées et le message qui peut se cacher derrière, de vraiment une réelle propagande derrière ces documents en fait sur le réel.
De plus en plus d'artistes chinois sont exposés en France. Est-ce qu'on peut considérer que pour les artistes chinois, la France est encore un pays où on peut créer et où on peut présenter des idées qui sont encore neuves ?
Je pense que effectivement, ça leur présente un terreau qui leur permet de gagner une grande liberté et je pense qu'il est une espèce de terre aussi qui se veut tout accueillante et intéressée par le propos qu'ils peuvent tenir. Je pense que, et plus au-delà, même en France ou même dans les pays européens de manière générale.
Alors c'est vrai que les États-Unis font un peu le marché, on va dire, fixent les cours des œuvres chinoises. En France, on a encore un mot à dire par rapport à ça ?
Ce qui est intéressant, c'est que justement le CNAP qui mène une politique d'acquisition qui se veut une espèce de cliché comme ça, d'une époque, etc., d'une période, c'est intéressant de voir justement les artistes chinois entrer dans les collections publiques françaises et ça donne un indice justement. On n'est pas obligé de payer des fortunes colossales pour intégrer une œuvre chinoise, c'est pas seulement un label un peu à la mode d'avoir un artiste chinois dans sa collection. Je pense que là, on a des stars aussi, des artistes stars qui ont les têtes d'affiche, mais qui ne sont pas forcément non plus les plus intéressants à posséder dans une collection.
Certains artistes chinois viennent faire des études en France et se libèrent finalement de l'étiquette chinois. Ils souhaitent être artistes d'une manière générale, pas revendiquer forcément... le fait d'être chinois, bien que forcément leur vie, leur culture est inspirée par cette existence préalable en Chine.
des artistes chinois qui viennent se former en France, c'est là le point intéressant dans les questions que vous soulevez, puisque ils viennent se former, donc ils adhèrent aussi à un nouveau champ pour eux de culture, etc. Donc ils viennent s'y renouveler, trouver d'autres critères d'inspiration. Et c'est ça en fait qui est déterminant, c'est qu'ils s'ouvrent, il y a une vraie volonté de cette jeunesse chinoise à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir aux frontières, etc. et à s'exposer en même temps sur une scène beaucoup plus vaste que permet la Chine.
Wang Du, bonjour.
Bonjour.
Une œuvre monumentale, très grande, donc c'est un défilé, on entend la musique qui correspond d'ailleurs.
Oui, c'est la musique de militaire chinoise, qui correspondant avec un défilé de fête nationale. Plutôt pour moi, c'est un podium comme un défilé de prêt-à-porter de vie du monde, prêt-à-porter.
Voilà. Les personnages qui sont représentés, donc en grand format, taille réelle, sont des militaires, des personnes qui...
C'est un militaire, il y a les civils, c'est un montage d'images pour comme une propagande ensemble, une masse média propagande. Je fais le montage entre différents... Il y a des missiles, il y a des militaires, et aussi il y a des citoyens normaux. Plutôt, c'est une manifestation contre aux États-Unis. Parce que c'est une pièce que j'ai faite il y a plus de 10 ans. Mm-hmm. Ce n'est pas une nouvelle pièce. La première fois, j'ai montré à New York, chez Teach Project. Vous comprenez, là, c'est une galerie à New York. Là, c'est la première fois que j'ai produit cette pièce. Parce que même aujourd'hui, entre la Chine et les États-Unis, sont ennemis imaginés. Non seulement une période, mais jusqu'à maintenant, peut-être encore quelques temps. Dans ce projet, j'ai joué un rôle comme porte-parole du gouvernement chinois à leur place. Je fais propagande pour eux dans le territoire aux États-Unis. Bah, c'est un peu conceptuel.
Donc cette œuvre date d'il y a une dizaine d'années. Actuellement, ouais. Quelles sont les œuvres que vous concevez? Quelle est votre idée? Quelles sont vos idées actuelles?
Autre chose. Ça, c'est un projet. C'est tout. Après, j'ai oublié, j'ai fait autre chose.
À cette époque-là, pour être reconnu en France, aux États-Unis, est-ce qu'il fallait absolument proposer des œuvres contre le régime communiste?
Non. Je ne compte pas le communiste. Il n'y a pas de critique. Hein. Ça, c'est plutôt contre aux États-Unis, contre l'américaine. Mmh. Vous avez vu le titre sur le fond, là? À part Megan, je suis le doublure de propagande chinoise contre aux États-Unis. Moi, je suis absent. Je suis un doublure.
Vous vivez en France?
Mmh. Oui.
Aux États-Unis, vous avez séjourné longtemps?
Je suis allé retour, je n'habitais jamais aux États-Unis, non. Mais beaucoup de voyages par rapport pour le travail.
Est-ce que pour vous, la France, c'est un pays intéressant pour créer?
C'est un pays que j'aime beaucoup. Pas seulement, non seulement pour l'art, pareil comme les autres pays. Plutôt, j'aime bien la France parce que c'est un pays, il a beaucoup de penseurs. Hmm? Tous les penseurs plutôt sont les Français.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'en France on pense beaucoup et qu'en Chine on produit beaucoup.
Ça dépend des moments.
Quand on voit les artistes chinois, ils sont très productifs.
Ça, ce ne sont pas l'artiste. ça ne me concernait pas. Non, ils sont, l'entreprise, c'est autre chose. On ne fait pas le comparer avec les artistes et les marchands, non.
On peut dire qu'actuellement, ça marche bien pour l'art marchand contemporain chinois.
Non, ça ne marche pas bien. Non. Non, ça c'est un... C'est des propagandes aussi, c'est des propagandes. Non. En Chine, il n'y a pas de marché de l'art. Il n'y a pas de marché d'art. Il y a que tu vends en chair. Ouais, c'est tout. Les gens achètent et revendent. C'est pas l'art, c'est pas de marché.
Donc vous êtes présent aujourd'hui, c'est une façon pour vous de faire aussi une petite performance autour de votre œuvre.
Oui, c'est compléter. C'est pas, je ne peux pas dire c'est une performance, plutôt c'est un compléter des œuvres parce qu'il est besoin de papier, de copies, de l'image originale. Voilà, compléter.
Merci Wang Du pour ce beau complément.
Ah, mais je vous en prie.
Collector, une exposition à découvrir au Tripostal de Lille jusqu'au 31 décembre 2011. Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus. I woke up last night, soaked to the bone. I could hear some